Sur Radio Craponne, une nouvelle émission Histoire de France et d'ailleurs, on retrouve René-Joseph Irmana qui nous parle aujourd'hui de Jules Renard.
Bonjour. Donc, c'est une émission désormais traditionnelle qui a bientôt 8 ans. Et donc, voilà, je vais au préalable, on va vous parler, comme annoncé, de Jules Renard et notamment de son héros, si on peut dire, phare. On pense tout de suite, en pensant à Jules Renard, à Poil de Carotte, le personnage de l'enfant malheureux, hein, solitaire, brimé, peut-être pas martyr, mais brimé, notamment par sa mère, qui est un peu presque une marâtre, voilà, qu'il déteste, et qui est inspiré de sa propre vie. Au préalable, concernant notre émission de mardi, j'avais pas fait les annonces pour les intermèdes. Alors, vous aviez eu à propos de Svetlana Staline, la fille de Staline, Alilouyeva. Donc, vous l'avez, je pense, perçu. On avait passé Rostropovitch, concert violoncelle, mur de Berlin. C'était au moment de la chute du mur de Berlin. Et c'était en direct sur France 2, de mémoire, à la date du 11 novembre 1989, au moment où Rostropovitch improvisait un concert, voilà, lors de la chute du mur. Hein, ça a duré, je sais pas, quelques semaines, je pense, mais bon, c'était ce moment phare, là aussi. Et puis, je vais passer, avant cela, les Beatles, Sgt. Papers. Sgt. Papers, le sergent poivre, Hearts Club Band. Bon, donc, c'était uniquement en raison de la chronologie. Le disque est sorti, l'album, et là, le premier titre de l'album, donc qui lui donne son nom, c'était de juin 1967, au moment même où Svetlana arrivait, débarquait aux USA dans sa fuite, voilà, vers le monde libre. Donc aujourd'hui, eh bien, Jules Renard, et avec un personnage, je l'ai dit, un peu emblématique, Poil de Carotte. Il a beaucoup écrit d'autres œuvres avec des succès moyens, notamment au théâtre. Il a été porté au cinéma. Il a été marqué par son enfance, justement, une enfance malheureuse, peut-être pas martyre, mais avec des problèmes avec sa mère, un père indifférent et une mère dure, une mère maniaque, qu'il brimait. Donc c'était un enfant solitaire et toute sa vie il est resté un peu ce poil de carotte, tourmenté, en recherche et jamais heureux, voilà, puisque jusqu'à la fin il déclarait: j'ai tout pour être heureux et je ne le suis pas, quoi, voilà. Donc qui est-il? Il est son père. S'appelle François. François, donc, Renard. Son père est né a épousé. Il est né en donc, il épouse son père en 1854. François Renard, alors, j'ai trouvé un peu des versions différentes dans les documentations. Enfin, j'ai trouvé entrepreneur travaux publics. Là, dans le document principal auquel je me suis référé, il était inspecteur des travaux publics et notamment il s'est occupé de l'implantation de la ligne de chemin de fer dans l'ouest, hein, en Normandie, vers Caen, voilà. Sa mère est Anne-Rosa Collin, alors fille d'un quincaillier, donc c'est de bourgeoisie moyenne, hein, ouais. Et son père est un franc-maçon, plutôt anticlérical, voilà. Et sa mère est ultra-catholique. Voilà. Donc, il a une sœur, Amélie, qui, alors ils sont en Mayenne, hein, voilà. Et près de Chalon-sur-Maine, Chalon-du-Maine, voilà. Mayenne. Donc, sœur aînée, Amélie, née en 1859, qui d'ailleurs a succédé à une autre sœur qui avait le même prénom mais qui était décédée enfant. Donc, survivante Amélie, même prénom que la précédente, défunte, et autre frère Maurice, né en 1862. Alors Jules, lui, il naît le 22 février 1864, donc à Chalon-du-Maine, en Mayenne, voilà. Et j'en ai parlé. Sa mère ne voulait pas, apparemment, de fils, ou elle ne voulait pas d'enfant. Elle n'en voulait pas de troisième. Donc, il y a une espèce d'agressivité. Elle tourmente sans arrêt cet enfant. Elle ne l'aime pas. Voilà. Son père, donc, franc-maçon. Et ce qui fait que les deux se... On verra que, eh bien, les parents finalement ne s'entendent pas du tout. Et alors, ça paraît surréaliste. Il y a 33 ans de silence. Voilà. 33 ans. Le père ne parle plus. Il est un peu indifférent. Il s'enferme dans le mutisme. Et alors, il communique, quand il faut parler, par des petits bouts de papier, des billets. 33 ans de silence, vraiment. Et donc, c'est un père muet et une mère agressive, hein, méchante. Ça évoque aussi le personnage de Folcoche, d'Hervé Bazin, dans le Vipère au poing, c'est ce type de mère. Hein. Et donc, c'est la réalité. Hein. Donc, ils habitent à Chitry, les Mines, je répète, en Mayenne. Et d'ailleurs, son père sera maire du bourg. Et d'ailleurs, on verra que également Jules Renard sera maire de cette petite ville. Ça sera un maire, donc, au moment de ses succès, de sa... Voilà. Gloire, je ne sais pas si on peut parler de gloire, parce qu'il a eu toujours eu du... C'est plus peut-être une gloire posthume qu'il a eu. Il a eu connu un certain succès, son vivant, mais ça n'a jamais été, je pense, très populaire. Hein. Il a eu de la reconnaissance de ses pairs, des critiques, voilà. Mais... c'est surtout après sa mort, et notamment, je répète, avec Paul de Caro. Donc, avec son frère Maurice, comme ses parents ne s'entendent pas, le père veut le lycée pour ses enfants, la mère veut l'école catholique. Alors, ils font une espèce de compromis. Je pense qu'ils prennent pension à l'Institut Saint-Louis, donc à Nevers, donc dans la Nièvre, avec son frère Maurice, et ils suivent des cours au lycée. Voilà. Donc, et il est, c'est le Jules Renard enfant, donc il est roux, mais sur doux poil de carotte. Et il a un physique un peu bizarroïde. D'ailleurs, je crois que c'est une romancière du 19e siècle, peu connue aujourd'hui, oubliée, Rachild. Rachild qui est, elle décrit, il passe pour être l'homme le plus laid de Paris. Très laid, mais en réalité, il est très beau. Voilà. Je le trouve très beau, dit-elle. Il a un physique déjà, donc enfin un front bombé, un crâne bosselé, des oreilles écartées, voilà, le front bombé saillant. Voilà. Il a un look un peu bizarre, et puis c'est bien sûr ses cheveux roux. Et en réalité, il aura toujours une sensibilité peut-être renforcée par ses tourments d'enfant. Il est très affectueux, très tendre, voilà, très vif aussi. Et donc, et c'est un enfant brillant. Mais bon, il va échouer au bac, en un premier temps, au premier bac, hein, première partie à l'époque. Et puis il va finaliser, deuxième partie, au lycée Charlemagne, donc bachelier S-lettres à Paris en 1883. Son père voudrait qu'il fasse normal sup, il voudrait en faire un brillant professeur, mais c'est pas son intention, c'est pas sa vocation. Le côté académique ne lui convient pas à Jules. Donc, il est, pendant les vacances, c'est un garçon sportif. Il fait beaucoup de marches. Il est familier de la nature. Il est à la fois contemplatif et observateur. Et il publiera d'ailleurs Études naturelles. Donc, c'est un petit peu comme cette œuvre au cinéma, Microcosmos. Voilà. Il observe la nature avec des petites touches. C'est toujours des touches brèves. Il y aura toujours l'humour aussi. Hein. Le côté sarcastique, le côté... ça ne sera jamais des envolées lyriques. Hein. C'est des petites phrases, mais qui font mouche. Voilà. Donc, contemplatif, rêveur, sportif... Et il court les bois, il court les champs à la campagne, il se baigne dans l'Yonne, il observe donc, et ça inspirera, c'est moins connu, cette œuvre, histoire naturelle, qui sera portée aussi en musique par Maurice Ravel, un opéra. Donc, sa sœur Amélie épouse un commerçant en ruban de Saint-Étienne. Voilà, on est dans la petite bourgeoisie. Et lui, il va vivre à Paris. une vie un peu bohème, mais enfin une vie où il fréquente les cafés littéraires. Voilà, il n'est pas sans ressources. Les caves, je sais pas, peut-être de Montmartre. Voilà. Il commence à écrire des articles dans des petites revues éphémères, un poème notamment, parce qu'à l'époque il faut faire des vers pour entrer dans le tout Paris littéraire. Il faudrait venir et puis réciter ses vers dans les salons. Il écrit un poème, Les Roses. Ouais. Il est entouré aussi d'un public féminin, on va dire. Donc, alors, il doit beaucoup peut-être. Il est entouré de femmes, hein, qu'il admire, qui l'aident probablement dans sa carrière. Alors, on peut citer Camille Delaville, c'est des femmes plutôt proches du théâtre, de la littérature. Camille Delaville, qui est une, je pense, une journaliste. Elle a été secrétaire de. Alors, je regrette, je ne devrais pas dire mon hésitation, de Dumas. Alors, je ne sais pas si c'est Alexandre Dumas ou à Dumas père ou fils. Hein, peut-être probablement fils. Ben, voilà. Camille Delaville, journaliste. Rachilde. Alors, c'est une romancière un peu oubliée aujourd'hui. Hein, voilà. Et c'est elle qui écrit ça. Il passe pour très laid. Mais en réalité, c'est un des plus jolis hommes de Paris. Voilà. Et donc, il a des mains de prélat, etc. Elle a fait un portrait très fin. On peut citer aussi Danielle de Daville, qui est Madame, dites, ou Madame de Saint-Hilaire, son vrai nom, c'est un pseudo, qui est une comédienne de la Comédie-Française, et qui récite ses vers, les vers de. Elle n'est pas Sarah Bernhardt, elle est moins prestigieuse, mais elle est connue. Et d'ailleurs, c'est plutôt dans des cafés miteux, hein, elle récite les vers de Jules. Donc, il fait son service militaire. Alors, il y a toujours cet humour, ces petites touches, ces portraits acides aussi. D'ailleurs, il se compare à la Bruyère. Je suis un La Bruyère moderne, dit-il. Alors, service militaire, il est plutôt, on verra, de gauche, hein, dirait-on aujourd'hui, socialiste, plutôt. Je pense anticlérical, il sera Dreyfusard, il soutiendra Dreyfus. Voilà. Et quand il sera maire, à Chitry, donc en Mayenne, ça sera un maire laïque, hein, voilà, tout à fait. Un grand admirateur de Jean Jaurès aussi. Voilà. Le 4 novembre 1885, alors il fait son service militaire à Bourges. Alors il y a un petit côté je sais pas si on peut dire dandy, mais enfin, j'ai dit des sportifs. Et alors, il fait par exemple de l'escrime, ce qui ne se pratique pas à l'armée. C'est un peu un passe-droit. C'est le sport à la mode, le sport élégant. Il fait de la bicyclette. Il participe à des championnats de billard. Donc, son poème Les Roses est publié en juillet 1896. Il écrit aussi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres œuvres. Hein. Je répète, souvent portées au théâtre, mais au mieux c'était succès moyen au théâtre. Il écrit Crime de village. Et son œuvre est inspirée. Il n'y a pas que Poil de carotte. Est inspirée de sa famille, souvent. Hein. Et les défauts. D'ailleurs, il écrira à son père. Ça n'est pas un ouvrage qu'il est bon de vous envoyer. Parce que c'est pas un cadeau très flatteur, voilà. Il est très dur dans ses descriptions de la petite bourgeoisie, je pense, et puis de ses parents, voilà. Et donc, café de village, donc crime de village, là, ce sont des échecs, hein, dans l'immédiat. Donc, il récite ses poésies, je l'ai dit, aussi, dans un sous-sol d'un café de la place Saint-Michel, ce côté bohème, hein, voilà. Alors, un temps, il va travailler pour un emploi alimentaire à la société de magasinage et de crédit qui s'occupe de stockage de charbon et qui a un bureau à Aubervilliers. Il gagne 100 francs par mois, il fait 8 heures par jour, hein, 9h-18h, c'est assez confortable, c'est alimentaire. Voilà. 1h30 au déjeuner, c'est un peu pépère et ça lui permet de se livrer à son œuvre, voilà, de travailler sur sa littérature, sur ce qui l'attire, le fascine, la littérature. Donc, il écrit des articles dans des revues, petites revues. Hein, il accumule par ailleurs les notes, les observations pour son œuvre future. Il écrit passionnette, entre guillemets. Il écrit aussi, alors, autre œuvre, Les Cloportes. qui est aussi qui s'inspire de sa famille et sa mère notamment n'a pas le beau rôle. Elle sera la Madame Lepic de Poil de Carotte. Elle sera aussi dans Les Cloportes. Elle sera un personnage de mère très antipathique. Et on verra qu'elle aura une fin tragique comme son père. Elle va en 1909. Elle tombe dans un puits, elle s'y noie. Voilà. Alors que, Jules, à la campagne, il descend dans le puits pour la sauver, quoi. Mais il ne tire qu'un cadavre et on ne saura jamais si elle s'est suicidée ou si c'est un accident. Et d'ailleurs, ça apparaît, je crois, dans l'une de ses œuvres aussi. Il décrit, bien avant la mort de sa mère, tragique, accidentelle ou suicide, elle avait des problèmes à la fin de sa vie de. Elle perdait un peu la raison, donc on ne sait pas. Hein. Et il fait une description qui est très proche de la mort de sa mère, anticipée, hein, dans Les Cornifleurs. Quoi, voilà. Terrible description, et qui se trouve, s'incarne dans la réalité. Si on peut, et son père se suicidera aussi, hein, se suicidera d'un coup de fusil. Voilà. Donc il est marqué aussi par ces événements, entouré de tragédies. Alors en 1887, le 15 juin 1887, il commence son journal, qui sera une œuvre avec ses correspondances très importantes, hein, et qui aura surtout un succès posthume. Mais c'est une œuvre majeure, hein, son journal. Il le continuera toute sa vie. Et d'ailleurs, il dit, c'est ma prière quotidienne. Il s'y accrochera à ce journal comme une bouée de sauvetage, hein, quand ça va pas, je pense pas. Donc il est licencié de sa société. Alors il devient un temps précepteur chez un romancier dont le nom est oublié aujourd'hui, pour les trois enfants d'un romancier. Voilà. Alors il écrit un autre roman, Les Cornifleurs, qui est un peu moins célèbre que Poil de Carotte, mais là aussi c'est un roman inspiré de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie dont il est issu, de sa famille. Et notamment, il s'inspire d'un séjour qu'il a fait. Il a été invité chez un. Alors, c'est pas vraiment sa famille, là, je dis. Chez un couple de bourgeois, les Galabran, ou M. Galbrune, voilà. Qui sont donc à Barfleur. Hein, j'avais une autre influence, c'est Barfleur. Donc, voilà, dans le roman, ça devient les Vernet. Et alors, il les décrit. Et là, il y a une aventure avec la fille de la maison, d'ailleurs. Ça passera, dans le roman, ça sera narré. Je ne sais pas si c'est un viol. Enfin, ça ressemble un peu à un viol. Et ça fera l'objet d'un scandale. L'éditeur hésitera à le publier. Et on ne sait pas. Ça serait oublié avec la fille de la maison. Mais bon, ça reste un peu ambigu. Bon, et par exemple, il écrit là pour justifier. C'est des petits bourgeois naïfs. Un peu pitoyable aussi, on va dire. Il l'admire, alors qu'il n'est pas, c'est pas un grand romancier encore, mais bon. Et par exemple, il rédige il sert de nègre à Monsieur Albrun, qui veut rédiger un ouvrage sur l'ameublement, donc un ouvrage, une espèce de catalogue, et donc il sert de nègre, hein, voilà, et il rédige. Donc voilà, ça fera l'objet de ce roman. Les Cornifleurs, hein, qui a fait, je répète, un certain scandale, mais il a imposé Jules. Et on voulait supprimer la scène que j'évoque avec la fille de la maison. Non, il impose la publication. Alors il va se marier, il fait une rencontre avec une jeune fille, Marie Moreau, ou Morneau, M-O-R-N-E-A-U, qu'il appellera Marinette. Elle a 17 ans. Et ils vont se marier le 28 avril 1888. C'est un peu un mariage arrangé, c'est un demi-mariage arrangé. C'est-à-dire, la mère est plutôt aisée, on va dire. C'est une bonne aisance. Elle a une belle maison à Paris, rue du Rocher, dans le 8e, une grande maison. Et au départ, c'est une espèce d'amitié qui se transforme en amour, un mariage raisonnable. Bien qu'il soit jeune, il a 24 ans à l'époque, elle 17, et donc, mais ça sera une belle histoire d'amour, puisque il ne tarira pas d'éloges sur sa femme. Il écrira un moment que, au fil des années, elle est devenue de mieux en mieux. C'est rare. Et qu'il ne lui connaît pas de défaut. Ça sera l'épouse fidèle. Voilà. Et ils seront complices. Donc ils font des séjours à Chintry. À Chintry. Donc près de. Donc en Mayenne. Hein, voilà, son pays natal. Et là, la jeune belle-fille, Marie, eh bien. Il y a une situation conflictuelle, c'est un peu basique, c'est un peu là aussi courtelinesque, je ne sais pas, avec sa belle-mère. Alors là, Madame Renard-mère est odieuse avec sa jeune belle-fille. Voilà. Et là, Madame Renard, la mère, là, elle sera, je l'ai dit, elle est Madame Lepic de Poilgarde, de Carotte, un peu l'équivalent de Folcoche, hein, chez Hervé Bazin, la marâtre, harcelant. Qui harcèle son enfant. Ouais. Et là, elle est la Madame Lérin, L-E-R-I-N, du roman Les Cloportes, ouais. Inspirée donc, aussi de ce vécu. Alors, par exemple, sa belle-fille qui veut se montrer gentille avec sa belle-mère l'appelle maman. Et Madame Renard-mère lui dit vous n'êtes pas ma fille et je n'ai que faire de vos compliments. Voilà. Donc, c'est. Cette vie de famille qui est eh bien mais qui l'inspire aussi qui fait la source de son œuvre à la fois caricature dure pleine d'esprit caustique et il y a un côté désespéré aussi dans l'œuvre de Jules Renard. D'ailleurs à un moment de sa vie il le dit il déclare à un jeune auteur eh bien j'ai tout pour être heureux et je suis malheureux. Voilà, c'est une blessure qui lui reste à vie. Donc on va passer un premier intermède. On va se référer plutôt à Paul de Carotte puisque Renard c'est un peu un éternel Paul de Carotte. Donc on n'a pas pu vous diffuser le film de Julien Duvivier de 1932 pour des problèmes techniques. Paul de Carotte, Duvivier a fait un premier film, alors mais médiocre en 25, et puis il a refait un remake, enfin, mais alors avec un beau film de 1932 avec Robert Linen. J'en parlerai de Robert Linen, Harry Bor, parce que Robert Linen c'était un jeune acteur là, à l'époque, il avait l'âge du rôle, hein, 11 ans, et c'est un garçon formidable. Enfin. Il est mort, il a été résistant, il a été exécuté par les nazis. Voilà. Harry Bor aussi est mort des suites de ses. Des tortures. Harry Bor aussi est mort des conséquences des tortures subies par la Gestapo. Ouais. Et Robert Linen, c'est un jeune. Il est mort à 24 ans, il est né en 1920. Alors lui. Il mériterait d'être au Panthéon, mais bon, il ne rentre pas dans les critères actuels. Hein. C'est un héros. Hein, voilà. Alors, Catherine Fontenay, dans le rôle de Madame Lepic. Mais bon, on ne peut pas vous le diffuser. On va vous en passer un autre plus récent, donc de 2003. Hein, je ne sais plus si c'était sur Antenne 2 avec Richard Bourringer. Voilà. Et. Qui joue dans le rôle du père. Et je vous donnais. Ah oui, Fanny Cottençon, l'actrice, 2003. Donc, on se retrouve dans 3 minutes.
Où tu étais ? Je t'ai demandé où tu étais. Mais tu vas t'arrêter, bon sang !
Non.
Qu'est-ce que tu dis ?
Non.
Tu refuses d'obéir à ta mère ?
Oui.
Ah, ça par exemple. Ah non mais, t'as entendu ? T'as entendu comment me parle ton fils ? Bon écoute, je vais pas m'énerver. Tu vas venir ici et on va parler tranquillement.
Non, maman.
Et toi, tu dis rien ?
Pourquoi tu veux pas descendre ?
Parce que je ne veux plus obéir à maman. Si c'est toi qui me le demandes, je ferai comme tu me le dis.
Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais venir.
Ne me touche pas.
Comment?
Ne me touche plus.
Poil de carotte. Poil de carotte. François.
Voilà un extrait d'un poil de carotte des années 2000, puisque cette émission Histoire de France est d'ailleurs est consacrée aujourd'hui à Jules Renard.
Donc, il participe, il évolue dans les milieux littéraires. Il participe par exemple à la fondation du Mercure de France, hein, avec d'autres, une revue littéraire, hein, avec d'autres personnalités des lettres de l'époque. J'ai dit Rachild, la romancière, son époux Villette. Il participe aussi au mouvement symboliste, symbolisme de, incarné par Mallarmé, Villiers de l'île d'Adam. Voilà. Et puis, j'ai cité son propos, et c'est ça, je suis un labruyère en style moderne, dit-il. C'est toujours des phrases courtes, mais alors pleines de drôleries, et parfois d'une qui mélange la cruauté, la dureté, la désespérance, avec l'humour. Hein. Donc, Les Cornifleurs, écrit à Barfleur en vacances, j'en ai parlé. Et oui, caricature, bien sûr, il met en scène terriblement sa mère. Ouais. Donc, rue du Rocher, le jeune couple habite chez la mère de Marie, Morneau. La mère habite au deuxième étage de la maison et eux sont au premier. Donc un grand appartement, ils reçoivent beaucoup de personnages des lettres de l'époque, un peu le tout Paris, des lettres notamment du théâtre, enfin, comme par exemple Courteline, Marcel Schweb, aujourd'hui oublié, qui est un critique, enfin, Catulle Mendès, Alphonse Allais, l'humoriste Alphonse Daudet, alors là, bien connu, et puis il y a un fils né, Jules François, le 2 février 1889, qu'on appellera Fantec. Et l'enfant a des problèmes de santé, le bébé a des. On croit bientôt condamné. Il vomit beaucoup. Mais il s'en remet. Il s'en remet. Voilà, et il vivra. Et puis. On croyait mourant, quoi. Et là aussi, c'est une angoisse. Et puis, surmonté. Voilà. Alors, il y a un côté, je pense, humoristique. Il y a un côté un peu. Je ne sais pas, farfelu. Alors, il y a par exemple un jeune valet, qui est un garçon de 14 ans, qui est habillé d'une serpillière bleue, et qui, à un moment, les invités sont là, ils prennent l'apéro, et il ouvre la porte, il dit « c'est cuit ». Voilà. Donc, il y a un côté humour, un côté drôle, hein, non conformiste. Alors, c'est les bons mots, c'est les jeux, les joutes spirituelles, voilà, avec tous ses amis. Des lettres. Alors il publie Les Cornifleurs. Il y a cette scène de viol ou de simi proche du viol ou de voilà. Alors l'éditeur Hollendorf qui évoque le passage chez les amis, hein, voilà, du jeune homme. Et donc ça ferait scandale, mais Jules impose sa publication. Donc épisode chez les Galbrunes à Barfleur. Hein. Et alors c'est un grand succès. Un succès aussi bien de la critique que du public. Une fille née, Julie, le 22 mars 1892, qu'on appellera Baye, B-A-I-E. Voilà. Et donc, il y a aussi d'autres, beaucoup d'œuvres. Alors, je pense que le titre indique le côté humoristique, côté drôle, mais aussi peut-être cruel, cassant. Les coques cigrues, voilà. C'est un succès critique, mais ça échappe un peu au public. C'est un échec populaire. Il fait un voyage en Suisse avec Marcel Schwab, qui fait des conférences, enfin, voilà, sur Ibsen, hein, le conteur suédois. Voilà. Et donc, il s'intéresse aussi au sport, par exemple. Il vient au Vélodrome Buffalo, il assiste à course cycliste entre Théron et Corps, hein, voilà, donc avec Tristan Bernard aussi fait partie de l'entourage. Il joue au tennis et puis à Barfleur, au bord de la mer. C'est pas Harfleur, hein, c'est Barfleur, voilà, si je dis pas de bêtises. Et donc à la fois sportif et contemplatif, il peut rester des heures devant la mer à méditer, à contempler. Il participe à la création de la société des gens de lettres. Mais à 30 ans, il se sent vieux. Il l'écrit en 1894. Je me sens vieux, je me sens sans espoir, sans enthousiasme. Il a l'impression que sa vie est foutue, qu'il n'a servi à rien. Voilà. C'est toujours, jusqu'à la fin de sa vie, il aura cette attitude, un petit peu, peut-être, j'allais dire de mort-vivant, j'exagère, mais quelque chose, c'est ce vide intérieur. Et donc, Poil de Carotte sera un peu la catharsie. Poil de Carotte va exprimer cette blessure d'enfance, hein, et donc inspiré de sa famille, ses parents. C'est donc un portrait chargé aussi bien, surtout de sa mère, bien sûr, qui tourmente l'enfant parce qu'il y a une haine maternelle, et puis son père qui, lui, s'en fuge dans l'indifférence. On sait qu'il reste pendant 33 ans, il se tait. Et sa femme, pareillement, il écrit, Jules, il écrit que s'il avait voulu simplement faire un geste, elle se serait jetée à son cou, probablement. Voilà. Mais il y a eu un silence imposé qui a duré toute une vie, hein. Donc, à propos de cet ouvrage, en fait, qui sera son succès, qui l'immortalisera dans le public, il écrit, c'est un livre que ce n'est pas un cadeau à faire à sa famille, parce que la famille, elle y apparaît pas très chouette, hein. Et donc, sa mère, par exemple, n'a pas lu une ligne. C'est quand même pas, je pense, c'est pas un enfant martyr quand même, mais c'est des harcèlements, des mesquineries. Alors sa mère le qualifie de chieur d'encre. Voilà. C'est des propos très crus, c'est des gens, je pense, c'est la petite bourgeoisie. Ils sont entre le populaire et le grand bourgeois. Voilà. Le père inspecteur, on l'a dit, des travaux publics, ingénieur, et la mère, donc femme au foyer. Son père était quincailler. Donc, alors le père, j'allais dire, il déshérite, c'est excessif. Il a une toute petite fortune, hein, une petite aisance, et il privilégie ses deux aînés, Maurice et Amélie, et rien pour Jules, parce qu'il pense, je pense, que Jules a les moyens de vivre. Il n'avait qu'une femme assez aisée, et il commence à avoir un certain succès, même si c'est pas un triomphe. Il peut vivre de sa plume, enfin, je crois qu'il y a aussi une dot, en fait, de sa femme. Enfin, donc, c'est pour cette raison, c'est un partage objectif, hein, si on peut dire. Il achète une maison de campagne près de Chitry, à Chaumont, c'est Chaumont, et là, il écrit ses histoires naturelles qui résultent de ses observations, à la fois ce côté poète. Je sais pas, ça me fait penser au film documentaire qui a eu beaucoup de succès, Microcosmos. Là, il le met en scène, c'est pas du tout somptueux, c'est des petits traits, des petites descriptions de la nature. Voilà. Et comme par exemple Poil de Carotte, c'est des petites scènes successives, hein, y a pas une trame, hein, c'est des petites touches qui font mouche. Alors, il écrit aussi des essais de théâtre. Voilà. Alors, ce cercle d'amis, je répète, qui perdure, notamment dans les milieux du théâtre et du Paris des lettres. Alors, il y a donc Edmond Rostand, la femme d'Edmond Rostand, Raymond Gérard, son nom de plume. Alors, là aussi, il semblerait qu'il se soit oublié, Jules, avec Edmond. Rosemonde Gérard, voilà. Ce qui fait qu'il y a un conflit, mais qui est, je pense, résolu avec Edmond Rostand. Hein. Voilà. Lucien Guitry, le père de Sacha Guitry. Hein, d'ailleurs, il réconcilie le père et le fils. Hein, alors que le père, Lucien, qui est un grand acteur de l'époque, le grand comédien, un jour, Jules vient avec Sacha à son bras pour l'obliger à parler à son père. Il réconcilie le père et le fils. Sarah Bernard, alors la grande Sarah Bernard, fait partie de l'entourage. Autre grande comédienne, Cécile Sorel, qui jouera, si je ne dis pas de bêtises, dans Les Cornifleurs, qui sera montée à la Comédie Française. Voilà. Et donc, il est reconnu comme je l'ai évoqué, dans le pari littéraire, les critiques, mais ça passe, c'est peut-être trop subtil, enfin, c'est trop spirituel, mais ça passe un peu, ça ne touche pas vraiment le grand public. Hein, voilà. En 1896, j'en ai parlé, cette grande amitié avec Lucien Guitry, le père de Sacha Guitry, donc, qui lui, c'est un peu un prince de la Renaissance, hein, Lucien Guitry, et il a une vie somptueuse, un train de vie formidable, alors une énorme voiture, et donc, Jules Renard admire quelque part. Apparemment, sans jalousie, il admire ce train de vie. Ils vont sur la côte avec Lucien. Voilà. Et c'est une grande amitié. Et Lucien Guitry l'impressionne, bien sûr, par sa vie tonitruante, si on peut dire. Alors, autre pièce. Au théâtre, c'est pas. Les romans, je pense, ont plus de succès que les pièces de théâtre. C'est souvent des échecs ou des semi-échecs ou des petites réussites. Plaisir de rompre, qui est donné à la première le 15 mars 1897. Alors là, c'est un succès par exception, si on peut dire, et qui est donc inspiré, plaisir de rompre, de son mari Vaudage, voire plus, avec Rosemonde. Alias Madame Rostand, hein, voilà. Mais c'est une glorieuse giboulée, dit-il, c'est-à-dire que c'est un succès un petit peu exceptionnel. Alors le 19 juin 1897, c'est le suicide de son père. Je pense que son père était malade, il s'est suicidé, il souffrait donc avec un fusil de chasse. Voilà, il s'est tiré une balle dans le cœur. Alors affaire Dreyfus. Il décrit la mort de son père. Il assiste. Il est dans la maison au moment où son père se suicide. Voilà. Il sera Dreyfusard dans l'affaire de scandale, l'affaire Dreyfus. Il soutiendra Zola absolument dans l'article. J'accuse, paraît. Voilà. Avec aussi le soutien de Georges Clemenceau. Hein, voilà. Dans l'horreur de Georges Clemenceau. Paraît l'article le 13 janvier 1898. Nous avions fait une émission jadis sur l'affaire Dreyfus. Et donc là, il est du bon côté, hein, du côté de la droiture, de l'honnêteté. Il soutient et il s'affiche sans peur. Il écrit autre pièce, Le pain de ménage, hein, le 14 mars 1890. Alors là, c'est Lucien Guitry qui porte la pièce avec Marthe Brandrès qui est sa maîtresse, actrice et maîtresse de Guitry, et donc là c'est un succès. Et puis il y aura Poil de Carotte, outre le roman, qui sera adapté au théâtre, le théâtre Antoine a été créé par l'acteur, un grand acteur de l'époque, Antoine, et c'est Antoine, donc le pseudonyme, qui joue le père, qui joue Monsieur le Pic, et Suzanne Després joue la mère. Voilà. Alors non, je dis une bêtise. Suzanne Després dans cette adaptation joue en travesti l'enfant Poil de Carotte. Voilà. Ensuite, il y a ce plaisir de rompre, nous parler, qui est inscrit au répertoire de la Comédie Française. C'est aussi prestigieux et qui est joué par la grande actrice Cécile Sorel. Alors, il y a Monsieur Vernet aussi qui est joué en avril 1903 par Antoine. La Bigotte. Alors, Madame de Pic, on l'a dit, c'était la mère, était très pieuse, mais jusqu'à la bigoterie. Elle faisait dans la calotinade, quoi. Et donc, c'est une pièce charge. Là aussi, sa mère n'y apparaît pas à son avantage. Voilà. Et il est une petite carrière politique. Il est maire de Chitry. Donc, son père l'avait été jadis. Il est élu maire le 15 avril 1904. Alors là, c'est un maire laïque, plutôt anticlérical, voilà. Et lors d'une remise des prix, alors je ne sais pas si c'est dans une école privée, il rend un vibrant hommage à Jean Jaurès. Il participera d'ailleurs à la création de l'Humanité aux côtés de Jaurès, journal d'Humanité. Alors ça fait un scandale, il le dit, ça fait un scandale énorme à l'époque. Donc, il participe, je viens de l'évoquer, à la fondation de l'Humanité auprès de Jean Jaurès, auquel il voue une admiration totale. Il donne des articles dans l'Humanité dès le premier numéro qui paraît le 19 avril 1904. Au début, c'est un journal socialiste, hein, et puis ça deviendra le journal communiste, hein, que l'on sait. Il écrit également, alors on ne peut pas citer toutes ses œuvres, La Vieille, entre guillemets, et c'est je pense que c'est une, oui, c'est un récit qui paraît en feuilleton, je pense, dans les premiers numéros de l'Humanité. À 42 ans, comme à 30, il est moralement vieilli, usé. Là, il parle. Il se sent vide, sans enthousiasme. Hein, voilà. Et il se raccroche surtout à son journal, là où il exprime tout ce qu'il est. Voilà. Et alors, je répète, il rend hommage à son épouse, Marie, qu'il comprend. Il dit, au fil des années, elle a progressé en qualité. Et je ne saurais pas citer un défaut. Alors, son fils Fantec, il en est déçu. Mais il y a beaucoup d'humour aussi dans ses propos. Je veux dire, pince sans rire ou à contre-pied peut-être. Il se dit affligé par son fils. Mais bon, son fils devient médecin, il fait médecine. Et donc, il se dit déçu. Mais bon, il dit qu'il a pour principal ami un squelette, quoi. C'est bien sûr, je pense, de l'humour, hein. C'est peut-être pas probablement pas à prendre au premier degré. Peut-être en est-il fier. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il a des problèmes de santé. Son fils l'ausculte. Et ça, il dit, on a beaucoup ri lors de cette auscultation. Voilà. Il promène ses oreilles dans mon dos, etc. En 1907, il collabore, alors là, un grand journal de l'époque, un grand journal du soir, Messidor. Et là aussi, il y publie, il y écrit en feuilleton. Voilà. Et donc, et aussi, il s'occupe du courrier du théâtre. Hein. Je pense qu'il fait une critique des pièces de théâtre. Alors, sa petite phrase parmi tant d'autres, ses citations sont en foultitude. La vie, je la comprends de moins en moins, dit-il, mais je l'aime de plus en plus. Alors, ça paraît en contradiction avec ce qu'il dit souvent de lui, cette espèce de désespérance. Il est élu à l'Académie Goncourt le 2 novembre 1907. Alors là, il y a une situation de. Polémique à propos de Ragotte, son œuvre. Alors là, il est attaqué par l'Action française, donc l'extrême droite, hein, virulemment, polémique. Alors je ne sais pas la teneur du roman, hein, ou de la pièce. Bon, on peut penser que c'est plutôt anticlérical. Enfin, et donc, par contre, André Gide, Ramuse, c'est un romancier aussi un peu. D'origine suisse, enfin Ramus, moins connu, un peu oublié, mais André Gide, bien sûr, illustre, l'estime beaucoup et lui donne le qualificatif de maître. On appelle maître les grands auteurs, hein. C'est pas un titre, mais c'est une espèce de. Qui acquiert une réputation. On les appelle maîtres, voilà, dans l'usage de l'époque du 19e siècle. Le 5 août 1909, drame familial, j'en ai parlé. Sa mère tombe dans le puits de la maison. Alors il court, il entend des hurlements, il court pour la sauver, mais trop tard, il ne sort qu'un cadavre. Voilà. Et on ne sait pas si elle s'est suicidée ou si elle perdait un peu la tête, elle avait des problèmes, ou si c'est accidentel. Il y avait une espèce de préfiguration, comme je l'ai évoqué, dans les cloportes. C'est Madame Lérine, qui est inspirée de sa mère, se suicide aussi. Elle s'accroche, il fait une scène terrible, elle s'accroche aux grilles de la margelle du puits. Il y a une scène de suicide. Alors la bigote est jouée le 21 octobre 1909 à Paris, mais là, sans grand succès. Et citation, toutes mes pensées ont une teinte de mort. Il y a toujours cette espèce de désespoir au fond de lui, malgré l'humour, malgré le rire, etc. Et c'est une conversation avec Jean Giraudoux, auquel les Goncourt ont refusé le prix pour ses provinciales, l'œuvre de Giraudoux, malgré le soutien de Jules Renard. Et alors que Giraudoux vient remercier Renard de son vote en sa faveur, et il est distrait. Il trouve que Jules est distrait. Et il dit, je reviendrai, je vois que vous êtes occupé. Alors Jules lui répond, non, je ne suis pas discret, mais j'ai une femme que j'aime et qui m'aime. J'ai des enfants qui sont heureux, qui sont beaux, qui réussissent. Et je suis malheureux. Voilà. Et donc, il meurt le 22 mai 1910, tout jeune, 46 ans, d'une crise cardiaque. Voilà. Et donc, j'ai cité, peu avant sa mort, c'était une dernière joie, avec du rire, son fils, qui est donc médecin, vient l'ausculter. Donc, les deux s'amusent de cette séance. Voilà. Et donc, je vous lirai quelques extraits, si j'ai le temps. En général, j'ai jamais le temps. C'est presque ridicule de vous le dire. Donc, on va peut-être passer, à moins que j'ai le temps encore de. Il me reste 10 minutes, oui. J'ai peut-être envie de vous passer, tant pis, la chanson de Lucien Jeunesse. Lucien Jeunesse, l'animateur, l'ancien animateur des 1000 francs, vous savez, du jeu des 1000 francs sur France Inter, qui a aussi une carrière de chanteur. Il chante Poil de carotte. Peut-être, je dirais une bêtise, j'ai prévu aussi de vous passer le film, autre film, de Paul Meynier, Poil de carotte, de 1952. Peut-être pourrait-on le passer là et terminer avec la chanson, avec Christian Simon. Alors Raymond Souplex dans le rôle du père de Monsieur Lepic, Christian Simon l'enfant, Germaine Dermoz qui est la mère, Madame Lepic. Donc c'est un très court extrait de 45 secondes. Le film de 1952 de Paul Meynier. On se retrouve dans quelques secondes.
Ma mère ne m'aime pas. Et j'aime pas ma mère.
C'était plus ma femme. C'était la bigote.
Au fait, aimez-vous le lapin ?
Troulala, 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 troulala.
Monsieur le directeur, le maître d'études et Marceau, ils font des choses.
Tu es sourde !
Je suis assez grand pour me défendre tout seul, non ?
On a un voleur dans la famille ! Voyons !
Bien sûr. Tout le monde ne peut pas être orphelin.
Voilà, troisième et dernière partie de cette émission consacrée à Jules Renard.
Alors, le 18 juin 1897, donc, ou le 19 juin, donc son père, suicide de son père. Donc, je donne des coups d'épaule, dit-il. Le père s'enferme dans sa chambre et va se tirer un coup de fusil. Un fusil de chasse. Je donne des coups d'épaule et la porte cède. De la fumée, une odeur de poudre, il est là, couché sur le dos, jambes étendues, buste incliné, tête renversée, bouche, yeux ouverts. Entre ses jambes, son fusil, sa canne du côté de la ruelle. Ses mains, libres, avaient lâché la canne et le fusil. Elles étaient encore chaudes sur le drap. Pas crispées, un peu plus haut que la ceinture, une place noire, quelque chose comme un petit feu éteint. Et il écrira dans son journal, « Je suis plein de respect et d'admiration pour sa mort, la mort de mon père. Il y a du plomb dans ma vie, les chevrotines de sa mort. » Et donc, au moment de... Je citais cette anecdote avec Jean Giraudoux, qui vient le remercier de lui avoir donné sa voix pour son roman « Les Provinciales », mais refusé par l'Académie et donné à un inconnu, mais enfin, ça peut arriver. Je ne suis pas occupé, alors que Giraudoux se rend compte qu'il est distrait, il est ailleurs. Et Jules lui répond « Je ne suis pas occupé, je suis malheureux. Ma femme m'aime, mes enfants sont charmants, mes amis sont dévoués, mes livres se vantent, le chien de la concierge aussi m'adore, mais je suis malheureux. J'ai tout ce qu'il faut pour parer au malheur, On m'a doué d'ironie, de méchanceté, de style, mais je suis malheureux. Donc, et puis il va mourir d'une crise cardiaque, son cœur bat la chamade, d'accord. Et à propos de son fils Fantec, qui vient le sculpter, externe des hôpitaux de Paris, nous avons ri comme des fous quand il m'a promené ses oreilles dans le dos. Donc, mais le diagnostic est sévère, donc on sait que il est condamné probablement. Donc il raconte le 6 avril 1910, dernière note de son journal: je veux me lever, cette nuit lourdeur, une jambe pend au dehors, puis un filet de sang coule le long de ma jambe, ça séchera dans les draps comme quand j'étais poil de carotte. Et il meurt le 22 mai 1910, donc à 46 ans. Il avait écrit 3 ans avant: je vois très bien mon buste sur la place de l'ancien cimetière, avec cette inscription: Jules Renard, à Jules Renard, ses compatriotes indifférents. Donc toujours l'humour sarcastique, et en réalité, on le sait, son double, eh bien, poil de carotte en quelque sorte, eh bien, est toujours présent. L'enfant aux blessures éternelles, qui est aussi l'écrivain lui-même, maître des phrases courtes et rapides, comme l'éclair, brillantes, comme le couperet d'une guillotine. Donc on va vous passer, je ne sais pas si je vous l'ai évoqué, je n'aurai peut-être pas le temps, oui, avant de vous passer la chanson de Lucien Jeunesse, juste un petit, sur le que j'ai déjà évoqué, sur Robert Linen, un jeune acteur qui a incarné Jules Renard, qui a incarné, je veux dire, Poil de Carotte, dans le film de 1932 avec Julien Duvivier. Et donc il s'est engagé dans la résistance. Il était né le 24 mai 1920 en Hermie en France, et engagé, je répète, il est arrêté, dénoncé par un officier de l'armée qui trahit, hein, qui passe aux Allemands, aux Boches, hein, et il est torturé par la Gestapo, et il est fusillé le 1er avril 1944 à Karlsruhe, en Allemagne, hein. Et c'est un jeune comédien, mais qui avait une assez longue carrière, 24 ans. Il avait joué, donc, je viens de le dire, Poil de Carotte en 1932. Il avait joué le rôle de l'enfant, bien sûr, à 11 ans. À 12 ans, en 1933, il avait joué aussi Le Petit Roi, Julien Duvivier. Il avait joué Rémi de Sans Famille en 1934, etc., dans La Belle Équipe en 1936. Et donc, voilà, c'est un personnage qui mériterait d'être peut-être au Panthéon, à côté de beaucoup, à côté d'autres, hein, en raison de sa jeunesse. Et puis, il n'a pas été qu'une victime, c'est un héros. Alors, et Harry Bore aussi, qui jouait dans le même film en 1932 de Julien Duvivier, lui aussi est mort. Mais Harry Bore, il est mort des suites de ses tortures. Le 8 avril 43, il avait subi des tortures par la Gestapo, mais lui voulait cacher qu'il était juif. Il avait joué d'ailleurs en Allemagne, avec la Continentale aussi, qui était la firme cinéma, eh bien, aux mains des Allemands, hein. Et donc il a été arrêté, dénoncé comme juif et torturé. C'est une victime, mais c'est pas un héros. Mais enfin, c'était le Gabin de l'époque, hein. Il était très un grand acteur, hein, je répète, un prédécesseur de Jean Gabin. Voilà. Voilà, on va donc passer la dernière intermède, qui sera une chanson donc de l'animateur, je ne sais pas s'il est vivant encore, Lucien Jeunesse, je crois qu'il est mort, qui était animateur du jeu des 1000 francs sur France Inter dans les années, je ne sais pas, jusqu'aux années 80 peut-être, et donc qui était aussi chanteur. Voilà. À bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.
Pourquoi, petit bon Dieu, ne m'avoir pas donné un nom, comme il y en a dans les chansons? Pourquoi, petit bon Dieu, des taches jaunes parsemées, tête rousse, visage de feu, faut changer ça, petit bon Dieu, ce n'est pas trop vous demander. Un nom, ce n'est rien à changer, promettez-moi, oui, promettez, que l'on oublie de m'appeler poil de carotte. J'en ai assez, on m'appelle poil de carotte, c'est toujours poil de carotte, et pourtant, petit bon Dieu, voyez, j'ai fait ma corvée tout le long de ma journée, et pourtant, petit bon Dieu, y a si peu de chair sur ma poitrine qu'on devrait entendre mon cœur vers le ciel dans votre berline. Donnez-moi ce bonheur. Sur la terre, y en a bien d'autres qui ont des cheveux comme moi. J'en avais dans vos apôtres, mais pour moi, faut changer ça. Petit bon Dieu, écoutez-moi. Avec vous seul, je peux parler. Petit bon Dieu, oui, croyez-moi, personne ne m'a regardé. Pour perdre en route mon chagrin, j'ai traversé bois et clairières. Petit bon Dieu, j'ai trop couru. Si ma prière inachevée, par le sommeil j'étais vaincu, promettez-moi, oui, promettez d'être là le soir tombé et de gentiment m'écouter. On m'appelle poil de carotte, c'est toujours poil de carotte, et pourtant, petit bon Dieu, voyez, j'ai fait ma corvée tout le long de ma journée, et pourtant, petit bon Dieu, y a si peu de chair sur ma poitrine qu'on devrait entendre mon cœur vers le ciel dans votre berline. Donnez-moi ce bonheur. Je suis qu'un petit poil de carotte. Sur la terre, y en a des tas. Mais mon Dieu, poil de carotte, vous le demande pour changer ça.
Son nom c'était Lucien, mais toutes ses petites copines, ses copains, le maître d'école et le sacristain, tous les commerçants de la ville qui sont de joyeux bout en train trouvaient que c'était plus facile de l'appeler le petit rouquin, le petit rouquin, le petit rouquin. Le petit rouquin, le petit rouquin. Quand il passait sa main dans ses cheveux en brosse, il rêvait des boucles des belles de son cousin. Il avait du chagrin, sa pelle était atroce quand il regardait la crinière du beau Julien. Tous les commerçants de la ville de joyeux bout en train avait la parole facile pour se moquer du petit rouquin. Le petit rouquin, le petit rouquin, le petit rouquin, le petit rouquin. Je serais comédien, j'aurais toutes les filles, disait-il à ceux qui riaient, qui s'amusaient bien. Mes copains seront de ma famille, dira le petit rouquin, je le connais bien.